Ce matin, je vais vous inviter à une lecture dans le Premier Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, texte que nous avons déjà lu il y a 2 semaines. Deutéronome, chapitre 11, et nous allons lire les versets 8 à 12. Deutéronome 11, 8 à 12, où il est écrit « Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Amen. Une question fort importante que nous avons tous à nous poser à l'heure d'aujourd'hui, en particulier en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, mais c'est une question qui finalement concerne un peu tous les humains, et surtout dans cette période postmoderne, c'est la question de savoir ce qui va ou qu'est-ce qui va nous nourrir spirituellement. Qu'est-ce qui va jouer prendre office de nourriture spirituelle pour nous. La question de savoir finalement, qu'est-ce qui va alimenter notre vie? Quelle va être notre nourriture spirituelle? Se demander ce qui va nourrir nos pensées. Qu'est-ce qui va être la nourriture de nos pensées? Qu'est-ce qui va être la nourriture de nos actions? Sur quelle base allons-nous agir? Ce qui va être la nourriture de nos convictions. Sur quelle base nos convictions vont se fonder? Sur quelle base nos convictions vont-elles se construire? Sur quelle base allons-nous nourrir nos projets? Qu'est-ce qui va nourrir nos projets? Qu'est-ce qui va conduire notre façon d'agir et de nous projeter dans le monde? Ce qui va aussi nourrir nos relations. Quelle est l'alimentation de notre vie? Qu'est-ce qui constitue le réservoir qui alimente notre esprit, qui alimente nos pensées, qui alimente nos actions, qui alimente nos choix? Et c'est une question fort importante à l'heure d'aujourd'hui parce que nous sommes littéralement gavés de toutes sortes d'informations qui nous viennent de toutes sortes d'endroits. Ça pourrait sembler, on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose qui est juste l'état du monde depuis toujours, mais c'est faux. Ceux qui sont un peu plus âgés savent bien qu'il y a 10, 20, 30, 40, 60, 70 ans, les sommes d'informations auxquelles on avait accès étaient beaucoup plus réduites. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est dans une explosion d'informations, une explosion de discours. Et nous sommes gavés de tous ces discours. Une explosion de voix qui s'élèvent autour de nous. Tant de voix qui nous parlent en même temps, qui s'adressent à nous, qui nous parlent, qui nous disent des choses, qui nous conseillent des choses, qui nous orientent dans un chemin ou dans un autre. On sait qu'il y a des voix autour de nous, comme la télévision, les réseaux sociaux, les canaux d'information, mais aussi nos lectures personnelles, les romans qu'on lit, les livres, les magazines. En cette période particulière, nous sommes face à des discours amis de l'État, des discours qui considèrent que ce que l'État dit, c'est la vérité, qu'on peut lui faire confiance. Et en même temps, assommés de discours, de théories du complot qui nous disent de ne faire confiance à personne, de nous éloigner, de faire à notre sauce. Et bien plus, comme humains, nous sommes aussi confrontés aux opinions tout autour de nous, aux opinions de nos amis, aux opinions de nos collègues, sur tout un ensemble de sujets. Tant de voix qui s'adressent à nous et qui nous parlent. Alors à moins de ne s'occuper de rien, ou à moins d'être complètement sourd, on ne peut pas, comme chrétien, ou on ne peut pas, comme être humain, à un moment donné, se demander, mais finalement, qu'est-ce qui va nourrir mon existence ? Qu'est-ce qui va me nourrir ? Est-ce que je vais me nourrir de l'eau qui vient du Nil ? C'est-à-dire, est-ce que je vais me nourrir de ce qui vient de la terre ? Ou est-ce que je vais me nourrir de l'eau qui vient du ciel ? De l'eau qui vient d'en haut. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur ce texte de Deutéronome chapitre 11. Et pour rappel, et pour ceux qui n'étaient pas présents, nous avions expliqué que Dieu, dans ce texte, est en train d'indiquer à son peuple qu'il y a une différence fondamentale entre le pays d'Égypte et la terre de Canaan. Et cette différence consiste en ce que l'Égypte est un pays plat qui nécessitait qu'on irrigue soi-même les terres. C'est un pays plat, d'abord, mais un pays aussi peu arrosé. Et donc, on était obligé d'utiliser des mécanismes qui permettaient que l'eau arrive sur les terres pour pouvoir nourrir les terres. Les hommes devaient irriguer la terre eux-mêmes, et c'est par leur propre travail qu'ils pouvaient finalement arriver à avoir des récoltes et donc arriver finalement à être nourris. Et ils utilisaient un mécanisme qu'on appelle des norias, on en avait parlé, et qui sont des mécanismes qui permettent justement d'amener l'eau qui est dans les ruisseaux jusque dans les terres. Et ce que Dieu est en train de dire à son peuple, c'est attention, parce qu'en Égypte, vous étiez obligés d'utiliser ce mécanisme-là pour que l'eau aille dans les terres, mais en Canaan, ce ne sera plus comme ça. Parce que la terre de Canaan, comme dit le texte, est une terre qui boit l'eau du ciel. C'est un endroit où Dieu envoie la pluie. Tu ne devras plus, comme avant, trouver des solutions par toi-même pour que l'eau arrive sur les terres, parce que l'Éternel lui-même enverra la terre, enverra la pluie du ciel sur la terre, et il prendra soin lui-même de cette terre. Alors, une petite vidéo pour que vous puissiez avoir une idée.
De ce dont on parle quand on parle des mécanismes qui existaient en Égypte.
Donc ça, c'est une noria moderne. Je ne dis pas que c'était comme ça, mais c'est le système moderne. Vous voyez qu'il y a une roue qui tourne et qui prend de l'eau dans un ruisseau. Donc ça, c'est des gobelets. Aujourd'hui, ils utilisent des gobelets. Et l'eau qui est dans les ruisseaux est élevée dans un espèce de récupératoire qui permet à l'eau d'être accumulée. Donc évidemment, vous voyez que c'est un mécanisme qui ne nécessite pas vraiment d'électricité, qui peut fonctionner sans trop d'énergie. Et l'eau est comme ça récupérée entre guillemets, d'heure en heure, par le mécanisme qu'on appelle la noria. On verra que l'eau est accumulée dans ces petits godets et qu'ensuite l'eau est acheminée sur les terres par ces mécanismes dans lesquels il y a des trous, vous voyez les trous qui permettent à l'eau de descendre sur les endroits, et donc l'eau qui est répandue. Vous voyez l'eau qui tombe et qui irrigue les terres. Donc ça, c'est un mécanisme moderne, c'est une noria moderne. Mais ça vous donne une idée de comment on faisait en Égypte pour pouvoir avoir
des terres. Merci à
la Ainsi, dans la terre de Canaan, le peuple doit s'habituer non pas à faire par lui-même pour pouvoir avoir des terres irriguées, au travers de ce type de mécanisme. Mais en terre de Canaan, le peuple doit comprendre que la pluie vient du ciel, la pluie vient de Dieu, et que la pluie dépend entièrement de Dieu. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'un élément particulier que Dieu indique dans ce texte-là, c'est que puisque la pluie dépend de Dieu, le peuple est mis en garde sur le fait que la pluie viendra en fonction de leur obéissance. Si le peuple obéit, la pluie viendra. Si le peuple n'obéit pas, la pluie ne viendra pas. Et que donc, leur relation avec Dieu devient centrale. Ça devient la première chose auquel ils doivent veiller. Parce que s'ils veulent qu'il y ait de la pluie, s'ils veulent une prospérité dans les choses qu'ils récoltent, ils doivent avant tout veiller à leur relation avec Dieu. On pourrait dire en quelque sorte qu'en Égypte, il y a une dépendance horizontale. En Égypte, on dépend des choses de la terre. On dépend des choses qui sont autour de nous. On dépend des mécanismes que l'on a autour de nous. Dépendance horizontale, on dépend de la terre. On s'occupe des choses de la terre et on essaye de s'arranger avec ce qu'on a sur terre. Alors qu'en Canaan, on pourrait dire que c'est une dépendance verticale. On dépend de ce qui vient du ciel. On dépend de la pluie qui vient d'en haut. On dépend de ce qui vient directement de Dieu. Deux modes complètement différents de gestion du monde. Dans la dépendance horizontale que l'on trouve en Égypte, on va mettre en place des stratagèmes humains pour faire sans Dieu, pour pouvoir se débrouiller sans Dieu. Ce que l'on peut appeler comme stratagème humain, c'est tout ce que nous faisons pour être capable de faire sans Dieu. Et le monde aujourd'hui, c'est un monde d'Égypte. C'est un monde à la dépendance horizontale. On dépend des choses du monde et on ne s'occupe pas de dépendre d'en haut. Quand on est inquiet pour son avenir, quand on est inquiet pour sa famille, quand on ne sait pas quoi faire, quand tout semble se fermer devant nous, on va voir des médiums, on va voir des voyants, on va voir des chamans pour avoir les réponses dont on a tant besoin. Dépendance de la terre, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir nous dire ce que sera notre avenir, nous dire comment les choses vont se passer pour nous. Quand on n'arrive pas à avoir la paix dans sa conscience en Égypte, on cherche tous les bruits possibles pour éteindre notre conscience, pour éteindre ce qui en nous nous dit que quelque chose ne va pas. On multiplie les activités et les bruits pour ne pas entendre la voix de notre conscience et pour échapper aux grandes questions qui nous attendent tous. En Égypte, quand on ne s'en sort pas avec les questions importantes, du monde, question importante de la vie, on se tourne vers tout ce qui peut nous donner des réponses satisfaisantes. On va acheter des livres sur le bonheur, sur les 13 règles pour être heureux. On va acheter des livres sur les lois de l'esprit, sur la libération des poids énergétiques, sur la libération des énergies. En Égypte, quand on fait face aux envies de sa chair, on trouve une solution pour les assouvir. Plutôt que de reconnaître qu'on est pécheur et qu'on doit se tourner vers Dieu, se repentir, lui demander son aide, on trouve des façons de faire qui permettent aux penchants de notre chair de pleinement s'assouvir. On fait par soi-même. On va toujours en Égypte créer des bidules qui vont nous permettre de vivre comme on veut, on va trouver des solutions, plutôt que de se tourner vers Dieu, de reconnaître qu'on est pécheur. C'est là qu'arrivent toutes les nouvelles formes de couples, des couples sans exclusivité par exemple, on est ensemble mais chacun fait ce qu'il veut. Plutôt que de dire c'est un problème, plutôt que de dire c'est quelque chose qui vers lequel je dois me tourner vers Dieu pour obtenir pardon de mes péchés et pour me repentir, on trouve, on crée quelque chose de nouveau qui va nous permettre de vivre comme on veut. En Égypte, lorsqu'on fait face à un désir d'argent ou un désir de gloire, on va travailler sans cesse, on va s'épuiser 7 jours sur 7, sans respecter le repos que Dieu prévoit. On cherche ainsi des façons de pécher sans conséquence plutôt que de renoncer au péché en lui-même. Voilà comment on vit en Égypte. On vit par soi-même, on vit avec ses ressources et on fait toujours en sorte de faire par soi-même. Même comme chrétiens, nous pouvons vivre le risque de vivre comme en Égypte, de vivre avec les ressources de la terre uniquement. Quand on est triste, on peut toujours faire plein de choses. Mais même nous, chrétiens, quand on est triste, très souvent, on va dire, je vais me regarder un bon de Funès. Ça va me requinquer. Alors que la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Voilà la différence. Face à la même situation, on peut utiliser une ressource de la terre ou on peut utiliser une ressource du ciel. On peut utiliser la pluie du ciel. Comme chrétien aussi, on peut être en danger de dépendre de la terre. Quand quelque chose ne se passe pas comme on voudrait, quand ça ne va pas à notre sauce, quand ce n'est pas assez rapide, on fait par nous-mêmes pour que ça aille plus vite. On connaît l'histoire d'Abraham. Globalement, nous devons nous méfier de tous les recours faciles et humains qu'on nous propose autour de nous, de tout ce qui apporte des solutions faciles à nos problèmes. Et les humains ont toujours un médicament pour tout. Parce que les humains ont toujours envie de faire par eux-mêmes, plutôt que de se tourner vers Dieu. Et souvent, ce sont des médicaments qui nous font du mal. Alors qu'en Canaan, on a une dépendance verticale. On dépend du ciel. On dépend de la pluie du ciel. On dépend de ce qui vient de Dieu. En fait, dans la Bible, on pourrait dire que premièrement, la pluie, ça symbolise ce qui ne peut venir que de Dieu. Puisque les hommes n'ont pas de pouvoir sur la pluie. Les hommes ont du pouvoir sur beaucoup de choses, mais ils n'ont pas de pouvoir sur la pluie. La pluie, c'est ce qui vient directement de Dieu et ce sur quoi Dieu seul a du pouvoir. En Canaan, le peuple de Canaan, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui dépend des choses qui viennent d'en haut. On a dit il y a quelques semaines que pour le croyant, le ciel est ouvert. À cause de Jésus, le ciel nous est ouvert. Et le ciel nous est ouvert pour que nous puissions mener une vie dans laquelle nous dépendons des ressources qui viennent d'en haut. Pas des ressources de la terre, mais des ressources qui viennent directement de Dieu. On sait que dans la Bible, il y a plusieurs éléments qui nous sont présentés comme venant du ciel. La pluie, on l'a dit. Mais aussi la manne nous est présentée comme venant du ciel. Mais aussi le Saint-Esprit nous est présenté comme venant du ciel. La voix de Dieu nous est présentée comme venant du ciel. Premièrement, et par-dessus tout, Jésus nous est présenté comme venant du ciel. Jésus, dans la Bible, est présenté comme la ressource qui vient du ciel. Le don qui vient du ciel, le don qui vient de Dieu. Jésus est présenté comme étant le pain qui vient du ciel. Intéressant. La première dépendance de la vie du chrétien, c'est le pain qui vient du ciel. Notre vie, d'un point de vue spirituel, dépend du pain qui vient du ciel, de Jésus. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quiconque mange ce pain, c'est-à-dire quiconque le reçoit, dans le texte de Jean 6, l'expression « manger » correspond à « recevoir ». Quiconque reçoit Jésus, quiconque mange le pain de la vie, obtient la vie éternelle. Le chrétien, c'est donc quelqu'un qui, dans sa vie spirituelle, premièrement dépend, premièrement du ciel, le ciel qui lui envoie Jésus, le pain. Jésus, le pain qui donne la vie. Jésus nous est présenté comme celui qui vient d'en haut. Il dit « Je suis descendu du ciel ». Comme le don qui nous vient d'en haut, le don qui nous vient du ciel et qui permet de nourrir, de nous nourrir jusque dans la vie éternelle. Le pain de vie, c'est un pain qui donne la vie jusque dans la vie éternelle. Premièrement donc, nous dépendons d'en haut en ce que nous avons reçu Jésus, le don du ciel, le pain qui donne la vie, le pain qui donne la vie éternelle. Deuxièmement, nous dépendons d'en haut en ce que nous sommes appelés comme croyants à dépendre de la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens 2, verset 6, il nous est dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. » Il parle comme croyant, « Nous avons la pensée de Christ. » Premièrement, nous avons Christ qui nous vient du ciel, mais nous avons aussi la pensée de Christ, la volonté de Christ, ce que Christ veut. Et nous avons le privilège de pouvoir vivre avec la pensée de Christ. Cette pensée qui nous guide, cette pensée qui nous conduit. Avoir la pensée de Dieu sur les situations que nous vivons. Le pape François avait donné cette belle expression, la sagesse, c'est de voir comme Dieu voit. Quelle grâce, parce que nous avons la pensée de Christ, de pouvoir voir les choses qui sont autour de nous comme Dieu les voit, de pouvoir marcher avec la pensée de Jésus. Et plutôt que de nous nourrir de toutes les voix que nous entendons, de pouvoir nous nourrir de la pensée de Christ lui-même, qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Dans toutes les propositions que le monde place devant nous, de pouvoir nous nourrir de la pensée de Jésus lui-même. Ainsi, on pourrait dire qu'en Égypte, on se nourrit du Nil, on se nourrit de la pensée du monde, de la pensée de la terre, alors qu'en Canaan, on se nourrit de la pensée de Christ, de la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu sur ce que je fais? Quelle est la pensée de Dieu sur le monde et la façon dont il avance? Quelle est la pensée de Dieu sur le mariage? Quelle est la pensée de Dieu sur le travail? Quelle est la pensée de Dieu sur la famille? Quelle est la pensée de Dieu sur les conflits? Quelle est la pensée de Dieu sur l'Église? Quelle est la pensée de Dieu sur tous les sujets auxquels nous sommes confrontés? Nous sommes donc un peuple appelé à vivre des ressources qui viennent du ciel. Très souvent, on nous rappelle que nous sommes, comme la Bible le dit, citoyens du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Le problème, c'est que souvent, on nous dit que nous sommes citoyens du ciel, mais nous vivons surtout avec les ressources de la terre. Nous sommes citoyens du ciel, mais nous nous nourrissons un peu comme tout le monde des ressources de la terre, et nous sommes approvisionnés des choses d'en bas. Alors que si nous sommes citoyens du ciel, c'est pour être approvisionnés des choses du ciel. C'est pour avoir les ressources du ciel. Et c'est pour marcher avec les ressources que le ciel peut nous donner. Nous sommes un peuple qui dépend des choses qui viennent du ciel. Matthieu 4, verset 4 nous dit, c'est Jésus qui parle, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Jésus n'est pas en train, et c'est un verset qui est repris du Deutéronome, Jésus n'est pas en train de mépriser la nourriture du ciel. Il ne dit pas, l'homme ne vivra pas de ce qui vient de la terre. Il ne dit pas, l'homme ne vivra pas de pain. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui vient du ciel. Nous avons à vivre en mangeant du pain, nous avons à vivre pour notre corps, mais spirituellement, nous sommes un peuple appelé à vivre avec la parole qui sort de la bouche de Dieu, avec la parole qui vient du ciel. C'est cette parole qui doit nourrir notre vie, cette parole qui doit nourrir nos choix. Et nous devons être très vigilants parce qu'en fait, la dépendance aux choses du monde s'installe plus facilement que la dépendance aux choses du ciel. Pourquoi ? Parce que les choses du monde, parce que les ressources de la terre, elles crient très très fort autour de nous. Très très fort. Nous n'avons pas besoin de chercher les ressources ou les voies de la terre. Elles crient. Nous entendons, il suffit d'allumer la télévision, d'allumer la radio, de discuter. Il y a tant de voix qui sont autour de nous. Et donc en fait, il est beaucoup plus facile d'être dépendant des choses de la terre que dépendant des choses du ciel. Parce que les choses du ciel, pour les entendre, il faut se taire. Parce que les choses du ciel, pour les entendre, il faut faire taire les autres voix. Parce que les choses du ciel, pour les entendre, il faut s'arrêter, se tourner vers en haut. Alors que les voix de la terre sont tellement fortes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu es appelé à vivre avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole qui est censée nourrir notre vie. Conduire notre vie. Ainsi, le peuple de Dieu dont nous parle Deutéronome, c'est un peuple qui est appelé à dépendre des choses célestes. Pour nous, dépendre des choses célestes, c'est chercher à avoir une intelligence, une réflexion renouvelée par la parole de Dieu, sans cesse. Une intelligence, une réflexion sans cesse renouvelée par la parole de Dieu. Alors là, nous dépendons des choses célestes. Dans notre vie concrète, dans nos pas concrets, dans nos choix concrets, nous dépendons des choses célestes. Dépendre du ciel pour nous, c'est avoir un regard sur la dimension spirituelle de notre vie. La dimension spirituelle de notre vie. Nous pouvons, comme croyants, vivre comme des personnes charnelles, en d'autres termes, comme des personnes dont la dimension spirituelle est complètement éteinte. Or, nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Et donc ce royaume dans lequel nous sommes entrés, c'est une réalité qui est là et qui nous entoure. Le Saint-Esprit en nous, le royaume dans lequel nous sommes entrés, c'est la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes. Mais donc dépendre des choses d'en haut, c'est aussi garder un regard sur cette dimension spirituelle. Or, notre vie est faite de telle sorte que nous sommes tellement pris par les activités de la terre, par le flot de la terre, par les bruits de la terre, que nous pouvons complètement oublier la dimension spirituelle qui est autour de nous. Complètement nous fermer à cette réalité et vivre comme des personnes qui n'ont que la terre. Garder un regard sur la dimension spirituelle de tout ce que nous faisons. La Bible nous enseigne que tout un ensemble d'actes que nous posons ont des conséquences spirituelles. Vous savez ça. Tout un ensemble d'actes dans la Bible qui nous sont décrits comme n'étant pas des actes qui ont seulement une portée physique, mais qui ont aussi une portée spirituelle. Et parfois, nous vivons sans savoir ça. Alors, dans les actes que nous posons physiquement, il y a des actes qui ont une portée spirituelle positive, d'autres qui ont une portée spirituelle négative. Tout un ensemble d'actes. Par exemple, garder rancune, ça a un impact spirituel. Ça a un effet spirituel. Tout comme pardonner, ça a un effet spirituel. C'est pas juste un acte concret, c'est pas juste un acte physique, c'est un acte qui a une puissance spirituelle. Donner de l'aumône, se rassembler en communauté, comme nous le faisons, ça a une puissance spirituelle. Avoir des relations sexuelles, ça a un impact spirituel. Ce ne sont pas des actes qui sont pleinement physiques, ce sont des actes qui sont reliés à une réalité spirituelle. Et nous sommes appelés, comme enfants de Dieu, à ne pas méconnaître cette réalité, à savoir qu'elle existe, et dans tout ce que nous faisons, à en tenir compte, sur base de ce que la Bible nous enseigne. Augmenter notre dépendance aux choses célestes, c'est aussi mener nos combats avec des armes spirituelles. C'est ça aussi, vivre comme un peuple qui dépend d'en haut. Nous menons nos combats avec des armes spirituelles. En d'autres termes, nous ne nous battons pas comme tout le monde. Nous ne nous battons pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais nous nous battons avec des armes spirituelles. Il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Est-ce que tu sais ça ? Que comme enfant de Dieu, tu es muni d'armes spirituelles qui sont fortes pour renverser des forteresses. Parfois, on est là comme des petits Playmobil. On est des petits chrétiens, on ne sait pas trop où on va. Nous avons des armes spirituelles pour renverser des forteresses. Pourquoi ? Parce que nous dépendons de ce qui vient d'en haut. Parce que nous dépendons de la pluie du ciel, parce que nous avons accès aux ressources célestes. La Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit qu'il se bat avec l'amour. C'est une arme. Il se bat avec la patience, il se bat avec la vérité, il se bat avec la pureté, il se bat avec la bonté, il se bat avec la prière, il se bat avec la persévérance. Nous avons des armes spirituelles dont nous ne devons pas méconnaître la réalité. Dépendre du ciel, c'est aussi puiser dans les ressources de Dieu et dans les promesses de Dieu. Mener notre vie en allant chercher dans les ressources célestes. Pour trouver de la joie dans les ressources célestes. Pour trouver de la paix dans les ressources célestes. Pour trouver de la force, allons dans les ressources célestes. Pour trouver même de la motivation, Allons dans les ressources célestes, puisqu'il est écrit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Voyez que même dans des choses aussi concrètes, Dieu peut créer en nous la motivation. Peut-être que tu n'as plus envie de faire quelque chose, ça te saoule, t'en as ras-le-bol. Mais quelqu'un qui n'a pas les ressources célestes, il va faire avec ce qu'il a. Il dit, ben voilà, j'ai plus la motivation, je ne le fais plus, c'est tout. Et l'enfant de Dieu va se tourner vers le ciel pour dire, Seigneur, je veux que tu ranimes ma motivation. Je veux que tu ranimes mon feu. Je veux que tu me donnes le vouloir, que tu me donnes le faire. Enfin, dépendre du ciel, c'est chercher à être toujours davantage conduit par le Saint-Esprit. La ressource par excellence donnée par le ciel. En d'autres termes, on pourrait dire que le peuple de Canaan, c'est un peuple qui sait qu'il n'est pas livré à lui-même. La noria, c'est quoi ? C'est je suis livré à moi-même pour nourrir, pour irriguer mes eaux, donc je dois me débrouiller tout seul. Le peuple de Canaan, c'est j'ai accès aux ressources du ciel. J'ai accès à la pluie du ciel. Et le Saint-Esprit nous est présenté en particulier comme étant la pluie, une pluie qui descend du ciel. Ésaïe 44, verset 3 nous dit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur les rejetons. » Le Saint-Esprit peut redonner vie à tout ce qui est mort dans nos vies. Il est une pluie qui redonne vie. Il y a parfois des domaines dans nos vies dans lesquels nous avons besoin d'être arrosés par le Saint-Esprit. Des terres de nos vies qui sont sans eau, desséchées, et qui nécessitent la pluie du Saint-Esprit. Eh bien, nous pouvons nous attendre à cette ressource céleste de l'Esprit de Dieu pour redonner vie à ce qui est mort, pour redonner de l'eau dans les terres desséchées. Ce peut être notre passion pour Christ qui est éteinte. Ça peut être notre joie conjugale qui est à zéro. Ce peut être notre motivation pour servir Dieu et pour servir les autres qui est éteinte. Ça peut être notre vision du monde qui s'est obscurcie. On n'arrive plus à voir clair. On est perdu dans toutes ces voies. Ça peut être notre cœur qui est fermé à l'amour de Dieu. Ou notre cœur qui est fermé à l'amour des autres. Notre cœur qui est fermé au pardon. Eh bien, dans toutes ces choses, nous pouvons demander la ressource céleste de l'Esprit de Dieu, redonner vie. Parce que nous avons la provision d'en haut. Et le peuple de Dieu, c'est un peuple réellement distingué lorsqu'il sait qu'il a les ressources d'en haut et qu'il ne se bat pas tout seul avec ses petites histoires comme en Égypte, mais qu'il est le peuple de Canaan et qu'il dit « Seigneur, je veux cette pluie qui vient du ciel. Je dépends des ressources qui viennent du ciel. » Pour finir, Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà notre appel de peuple de Dieu, notre appel de peuple de Canaan. Que nos cœurs soient donc approvisionnés d'en haut. Que nos foyers soient approvisionnés d'en haut et que nos églises soient approvisionnées d'en haut. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi, d'abord dans la reconnaissance, te disant merci pour les réalités auxquelles tu nous as donné accès. Justement, par Jésus-Christ, à cause de son œuvre à la croix, tu as fait de nous les enfants de Dieu, tu as fait de nous le peuple du royaume de Dieu. Et tu as fait de nous le peuple assis dans les lieux célestes, citoyen du ciel, qui a donc accès aux ressources du ciel. Merci pour cela. Merci pour toutes les bonnes ressources que tu nous donnes. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous aides les uns et les autres à comprendre ces réalités et à dépendre davantage des choses qui viennent du ciel, effectivement. À vivre comme un peuple qui a accès à toutes ces ressources. Dans tous les domaines de nos vies, aide-nous à nous tourner vers toi. Non pas pour mépriser les choses de la terre qui sont bien utiles, mais pour savoir que les ressources les plus précieuses viennent d'en haut. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes parmi nous aujourd'hui qui ont besoin d'une visitation de la pluie du ciel dans leur vie. dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, dans leur vie personnelle, dans leur santé, dans leur motivation, dans leur réflexion, quel que soit le domaine. Seigneur, que tu puisses aussi envoyer la pluie de l'Esprit pour redonner vie à ce qui est mort et pour nourrir les terres desséchées. Aide-nous, Père, à dépendre de toi, à dépendre des choses d'en haut. Aide-nous à être un peuple approvisionné d'en haut. C'est notre prière que nous t'adressons par Jésus-Christ. Amen.